Chapitre 10. Piège sous la falaise. Paloma se releva et se tint assise. Elle jeta quelques galets au loin sur la plage, sans atteindre la mer. Elle se retourna vers Bergton, le visage à moitié éclairé seulement par les réverbères. Belle. Elle prit une grande inspiration et se lança. À mon tour alors, la fin de l'énigme, la dernière ligne? Bien entendu, ces 12 trafiquants ont amassé en 14 ans une fortune considérable. Sans aucun doute, ils ont dissimulé cette fortune, pour ne pas éveiller l'attention sur leur enrichissement trop soudain. Reste à savoir à quel endroit. Maurice Leblanc l'avait découvert et nous donne toutes les clés pour, à notre tour, pouvoir le retrouver.
Vous parliez de 5 indices convergents.
Bien entendu, professeur, 5 indices. Vous avez deviné également, j'en suis persuadé.
Non, fit Bergton penaud.
Allons, au moins quelques-uns, un ou deux vous ont sauté à l'esprit.
Paloma tourna la tête et son visage disparut dans l'ombre. Bergton ne distinguait plus que la silhouette gracieuse du visage de l'étudiante. Le regard du professeur s'arrêta sur la courbe parfaite de la nuque de la jeune femme. Il reprit avec ironie.
« Cessez de tourmenter mon vieux cerveau fatigué, belle Paloma. Quels sont ces 5 indices ?»
Paloma soupira. Elle se tourna à nouveau, cette fois-ci en pleine lumière du réverbère, radieuse, triomphante, superbe.
C'est pourtant enfantin. Le premier, souvenez-vous, c'est le seul prolongement d'une bisectrice du triangle parfait qui n'aboutissait à aucun lieu cité par Leblanc. La bisectrice du sommet du Ménil sous Jumièges, vers le côté opposé. Et celle-ci aboutissait à...
Velette-sur-Mer.
Vous voyez, c'est évident. Le second, une évidence aussi. Où se situe le centre du triangle parfait?
À Héricourt-en-Caux, au colombier dodécagonal,
mais aussi à proximité des sources de la Durdan. Tout commence aux sources de la Durdan. N'est-il pas logique que tout se termine à son embouchure? Le symbole a dû amuser Maurice Leblanc. Il était friand de ce type d'association. Le troisième maintenant. Où a été trouvée la pièce d'or hier? La couronne anglaise frappée en 1905.
À Saint-Valery-en-Caux?
Oui, Saint-Valery-en-Caux. La première plage à l'ouest de Velette-sur-Mer, à peine 5 km d'ici. Sur la plage où sont construits les premiers épis de béton qui bloquent la dérive vers l'ouest des galets. Et des pièces d'or. C'est une évidence, tout converge. Le trésor aux Anglais est dissimulé quelque part entre Velette-sur-Mer et Saint-Valery-en-Caux, tout près du littoral et tout près de l'embouchure de la Durdan.
Pourquoi près de l'embouchure de la Durdan?
À cause de la dernière ligne du cryptogramme de l'aiguille. Vous vous souvenez des trois premières lignes? En amarre, le Val. Passant le fer, le roi de grès. Les contrebandiers débarquent, gravissent la valeuse, suivent les calvaires de grès jusqu'ici et parviennent à la Durdan. Il nous reste la dernière ligne.
Sous le fort de Fray-Fossé, selon Leblanc.
Oui, mais avec les voyelles O-U-E-O-E-E-O-E, on peut également écrire la formule suivante « Touche l'or près de l'onde ».
Les ombres et lumières de la digue éclairée donnaient au visage de Paloma une force presque irréelle. Le professeur se laissa tomber sur les galets.
« Vous êtes une enchanteresse, Paloma. C'est d'une telle évidence lorsqu'on sait. »
« Si j'ai vu juste, l'or se trouve près de l'onde, mais également près du littoral. La Durdan vient ici se jeter dans la mer. Levons les yeux, que voyons-nous ? Une falaise de 70 mètres que la Durdan vient mordre à sa base. »
L'éperon, souffla Bergton.
Dernier indice alors? Le cinquième. Le lieu exact de l'emplacement de la cachette du trésor des contrebandiers devait être lui aussi indiqué par un calvaire de grès. Mais on ne trouve plus de calvaires aussi près du littoral. Ils ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Statistiquement, quel est le lieu où il est le plus probable que ce calvaire ait été détruit?
Là où l'on trouve la plus forte densité de blocos, triompha Bergton. l'éperon, la tour de commandement de la vallée, au-dessus de notre tête.
« 5 indices convergents !» cria Paloma. « C'est presque 4 de trop !»«
Si le trésor aux Anglais existe toujours, il est enterré quelque part là-haut, sur l'éperon, au-dessus de nos têtes. »«
Il existe toujours, Paloma !»
confirma Merton.
« N'oubliez pas, hier encore une pièce a été retrouvée, en route !»
Paloma se releva. Elle se sentait particulièrement courbaturée. Elle faillit plusieurs fois se tordre les chevilles sur les galets. Ils passèrent à nouveau le pont rouge et se rapprochèrent de la falaise. Elle n'était pas éclairée. Avant de s'engager vers le tapis d'herbe en pente raide, le rayon de leur lampe torche croisa une longue rangée de barrières que l'on avait visiblement installées dans la journée. Les barrières semblaient interdire l'accès à la falaise. Bergton éclaira un écriteau accroché à l'une de ces barrières. Par arrêté municipal du 12 juillet, l'accès à la falaise est strictement interdit. Suite aux orages récents, risque très fort d'effondrement.
Logique, fit Bergton. Avec les orages, c'est ainsi tous les étés.
Il y a vraiment un risque?
Vraiment. Sur certaines portions du littoral, la falaise recule en moyenne d'1 mètre par an. Mais bien entendu, l'effondrement se fait par blocs entiers, soudains et imprévisibles.
Vous n'allez tout de même pas me dire que ces barrières vont nous arrêter, pas maintenant?
Non, bien entendu. On tendra l'oreille. La falaise fait du bruit avant de se jeter dans la mer.
Souplement, ils passèrent par-dessus les barrières métalliques et commencèrent l'ascension de l'herbe mouillée. De l'eau de pluie continuait de ruisseler en surface, et plusieurs fois, ils mirent une main à terre. Finalement, ils durent se résoudre à ranger leur lampe torche dans leur poche et se servir de leurs 2 mains pour agripper les branches et pierres à leur portée. 10 minutes plus tard, ils atteignaient le sommet de la falaise. Quelques vaches endormies sur les pâturages ouvrirent avec lassitude leurs yeux sur leur passage.
« Que fait-on maintenant ?» demanda Paloma. « On sort les pelles ? Ou on revient demain avec un bulldozer ?»«
Bonne question. » Les indications exactes devaient être inscrites sur le calvaire. Celles que cite Maurice Leblanc dans le cryptogramme de l'aiguille, DF. Les triangles et la série de chiffres qui donnaient les mesures exactes, mais sans le point de départ.
Peut-être pourra-t-on retrouver dans des archives l'emplacement exact de ce calvaire. Il doit exister des traces, des photos peut-être.
Nous ne sommes pas obligés de tout résoudre au jour...
Brusquement, Bergton se jeta sur Paloma et la plaqua au sol.
« Que faites ?»
Elle ne put en dire davantage. Bergton posa fermement sa main devant sa bouche. Il chuchota.
« De la lumière là-bas. J'espère qu'ils ne nous ont pas vus. Qui, ils ? Je ne sais pas.
Vous me faites mal, professeur. »
Bergton s'aperçut qu'il écrasait son étudiante de tout son poids. Il se dégagea. Pas un instant, il n'avait songé à profiter de la situation. Ils levèrent discrètement la tête vers la lumière que Bergton avait aperçue.
Rien.
Vous êtes certain de ne pas avoir rêvé? Moi, je n'ai...
Venez!
Dit avec autorité le professeur. En rampant, ils se rapprochèrent du point désigné par Bergton. Ils progressaient à quelques mètres du bord de la falaise. Ils parvinrent à un petit muret de béton. Derrière le muret, un gouffre noir.
Les blocos, murmura Bergton. L'éperon est un dédale de blocos. Tout un réseau souterrain. La lumière venait d'ici. J'en suis certain.
Paloma et Bergton se regardèrent.
Ce n'est pas très prudent d'entrer, fit Bergton.
Vous en mourrez d'envie. On y va!
Sans davantage se dissimuler, Paloma se leva, alluma sa lampe torche et balaya l'obscurité. Un couloir étroit de béton s'enfonçait sous la falaise. Bergton hésita un instant et alluma lui aussi sa torche. Ils descendirent dans le couloir. Ils avançaient très lentement dans le corridor étroit, baissant péniblement la tête car la hauteur du plafond n'excédait pas 1,50 m. Leurs mains tâtonnaient avec dégoût les murs de béton froid. Le couloir menait à une autre galerie.
« À droite ou à gauche ?»
chuchota Paloma. Bergton regarda les deux directions attentivement. Brusquement, il éteignit sa torche.
« Éteignez la vôtre, vite !»
Sans chercher à comprendre, Paloma fit de même. Elle comprit. Au fond du couloir, à gauche, on distinguait dans l'obscurité une pâle lueur. Ils avancèrent. Après plusieurs virages serrés, la galerie débouchait sur une vaste salle. Paloma et le professeur s'arrêtèrent soudain, muets de stupeur. La vaste salle du blockhaus était éclairée en divers endroits par une dizaine de cierges posés sur des socles de bronze. Au fond de la salle, on distinguait un matelas gris sur lequel étaient posées plusieurs couvertures. Dans un autre coin de la pièce étaient rangés avec ordre un réchaud à gaz, un peu de vaisselle et quelques boîtes de conserve. Contre un autre mur, une petite table était couverte de vieux livres.
« Un squat ?»
s'interrogea Paloma. On entendait distinctement le bruit assourdissant de la mer frapper la falaise. Il devait y avoir une ouverture. Effectivement, sur un mur de la pièce un peu moins éclairé que les autres, on distinguait une lucarne, un long rectangle percé dans le béton. Ils s'approchèrent. Derrière la lucarne, une ouverture de même taille était creusée dans la falaise, sur 2 ou 3 mètres de profondeur, et s'ouvrait directement sur la mer. Ils restèrent un long instant à observer avec étonnement du fond de ce blockhaus la lumière des étoiles et le reflet de la lune sur l'eau tourmentée.
« Je vous attendais !»
La voix perçant le silence glaça le sang de Paloma. Elle ressentit un instant la peur de mourir là, dans ce caveau de béton, dans cette prison morbide bâtie par les nazis. Elle pensa que ni elle ni le professeur n'avaient d'armes, pas même un couteau. Bergton lui prit la main, il la serra fort, très fort, il chuchota.
« Ne craignez rien, ma Colombine !»
Ils se retournèrent. Un homme, un seul, se tenait devant eux. Il n'avait rien d'effrayant. C'était un homme âgé, plus de 70 ans, pensa Paloma.